Radio Ndekiloka, il est 13h à Bangui. Nous vous invitons à suivre la grande édition de la mi-journée avec Eda Loutine Diko. Eda, bonjour.
Bonjour Jefferson Zigarabe, bienvenue à tous dans cette édition. À la une, deux commerçants de Mangasso assassinés cette semaine par des hommes armés sur l'axe Djimbi-Kongo dans la Basse-Koto. Le député de Mangasso en condamne cet acte et appelle le gouvernement à veiller sur la sécurité du transport sur l'axe Bangui-Mangasso. Pas de kermesse avant les fêtes de fin d'année, telle est la position du ministère de l'administration du territoire. À suivre dans ce journal, la mise en garde de Bruno Yapande, chef de ce département. Ouverture demain de la COP27 en Égypte. Les organisations de la société civile centrafricaine pour la protection de l'environnement recommandent aux participants centrafricains à cette conférence de demander une subvention pour la protection de l'environnement. Basketball, une première délégation de Bangui Sporting Club a quitté Bangui ce matin pour Abidjan, Côte d'Ivoire. C'est pour participer à la dernière phase qualificative de la Basketball Africa League. Je vous présente ce journal avec Bonaventure Ngomba Katikiro. Bonaventure, bonjour.
Bonjour Eda, bonjour à tous. Les groupes armés continuent d'endeuiller les familles en République centrafricaine.
Jeudi, ils ont tué deux commerçants de Bangasso qui rentraient de Bangui. Ces hommes armés assimilés aux éléments de l'UPC les ont interceptés entre Djimbi, Kongo dans la Basse-Koto. Le député de Bangasso 1, Armand Maurice Bazambo, condamne cet acte et appelle les autorités à vite mobiliser les ressources pour la réhabilitation du tronçon Bangui. Barry Bangasso. Nous l'écoutons au micro de Martial Steve Mbetisinga.
Au moins 11 commerçants remorqués sur au moins 4 motos ont été interceptés au-delà de la ville de Djimbi. Ils ont été totalement dépouillés. 9 parmi eux ont été libérés. Les 2 autres ont été torturés et assassinés et leurs corps jetés en pleine nature. Heureusement, à nos frères chasseurs qui ont retrouvé ces corps et ces corps ont été inhumés au niveau du village Ngwamundju. Nous saisissons cette occasion pour condamner avec force et rigueur ces actes inhumains perpétrés par des groupes armés qui continuent jour et nuit à faire endeuiller des familles. C'est assez. Et tous les problèmes ne se gèrent pas par des armes. Et tous ceux qui continuent à tuer, qu'ils ont tué et qui continuent à tuer, ne sont rien dans leurs revendications. Voilà pourquoi nous profitons aussi de votre micro pour interpeller, pour demander au gouvernement pour que tous ces acteurs de crimes graves, des tueries, répondent de leurs actes devant la justice. Et nous profitons aussi pour lancer ce vif appel au gouvernement de tout faire pour mobiliser les fonds et de lancer sans délai la réhabilitation de la route Bombari-Bangasso. C'est un calvaire quand on parle de voyage sur le tronçon Bombari-Bangasso.
Dans la Vakaga, les habitants de la commune de Wanja s'inquiètent de la présence des hommes armés dans leur localité.
Depuis 2 jours, ces hommes armés encore non identifiés se sont positionnés à 3 km du village Haïfa. Une situation qui inquiète les habitants. Martin Fachen, sous-préfet de Wanja, est joint au téléphone ce matin par François Kosimipalatou.
Ces hommes-là ont quitté la zone de Mbangana, ils sont passés par Wada. Arrivés à Wadjale, ils ont bifurqué la ville. Et ils ont passé par des petits villages. Ils ont traversé toute la sous-préfecture de Wanja, se retrouver actuellement à Haïfa. Actuellement, il n'y a rien, mais ils sont restés. On ne sait pas quelle est leur intention. Ils sont là pour combien de moments ils vont où, quel est leur objectif, on ne sait même pas. Mais arrivés sur le site d'or, là, ils voulaient s'imposer, ils voulaient passer au marché, collecter ce qu'ils veulent, quoi. Les gens d'ici les ont empêchés. Eux-mêmes, ils sont entrés dans le marché. Tout ce qu'ils ont pu recueillir, ils leur ont remis du savon, du sucre, etc. Et puis, ils leur ont demandé de passer leur chemin.
Andjoukou, dans la Kémo, la psychose continue de gagner les habitants.
Oui, Bonaventure, il craint une attaque des éléments anti-balaka dans la localité, selon des sources locales jointes ce matin. Ces éléments anti-balaka accusent la population de Ndjoukou Centre de fournir des informations sur leurs différentes attaques, ce qui entrave leur action. Pour l'instant, la peur gagne la population. Mardi dernier, les éléments du chef anti-balaka Ayoloma ont tué 6 personnes dans le village Magalo dans leur opération de raquette. Les villages périphériques de la ville de Ndjoukou sont vides. Les habitants sont toujours dans la brousse depuis le début des combats qui opposent 2 groupes rivaux anti-balaka dans la localité.
Le ministère de l'Intérieur chargé de la sécurité publique interdit l'ouverture de la kermesse à Bangui avant les fêtes de fin d'année.
Selon Bruno Yapande, en cette période de cours, la kermesse ne pourrait être ouverte. Il met en garde contre toute ouverture anticipée de kermesse pouvant compromettre, selon lui, l'éducation de la jeunesse. Le ministre Bruno Yapande est au micro de nos confrères de Radio Centrafrique.
Notre pays vit sous la coupe d'une réglementation que tout le monde est appelé à observer. Vous savez, nous sommes juste en période de la rentrée scolaire. C'est le moment où les élèves, les étudiants doivent être dans les meilleures conditions, dans un environnement sain pour apprendre. Et ce qui n'est pas le cas, on ne peut pas ouvrir une kermesse au début d'une rentrée scolaire. Et c'est pourquoi je les ai fait venir pour leur dire d'attendre la période indiquée pour ces genres d'activités, c'est-à-dire la période des vacances. J'ai abordé la question concernant le contenu des activités qui doivent se dérouler désormais à l'occasion des kermesses. Les kermesses ne doivent pas être l'occasion pour notre jeunesse de s'enivrer, d'aller faire du banditisme, de perdre tout un temps fou dans des débits de boissons. Là, nous créons encore une fois de plus l'incivisme, une situation que nous ne pouvons pas récupérer d'ici demain. Donc c'est pourquoi j'ai donné des instructions fermes à la mairie de Bangui. Et ceci est valable pour toutes les institutions chargées de délivrer des autorisations aux promoteurs de ce genre d'activités.
Ouverture demain de la conférence internationale sur le climat, la COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte.
Les organisations de la société civile de Centrafrique militant contre les effets du changement climatique se mobilisent pour faire entendre leur voix dans cette conférence. Elles se sont réunies jeudi à Bangui afin de faire le bilan des activités contenues dans la CDN, contributions déterminées au niveau national et rédiger des recommandations qui seront présentées au nom de la République centrafricaine par l'équipe gouvernementale. Guy-Julien Dakouzou, coordonnateur de la plateforme GDRNE au micro de François Kossimé Palato.
Comme recommandation, on a demandé à ce que le gouvernement centrafricain a le droit d'organiser des séries de réunions préparatoires à la conférence de parties avec l'implication de toutes les parties prenantes. Et nous avons aussi demandé à ce que le gouvernement puisse réserver un quota de participation de la délégation de la société civile aux différentes conférences des parties qui seront organisées. De tenir compte des compétences des délégués représentant la RCA à ces différentes conférences des parties pour un bon résultat. Nous avons aussi fait des revendications à l'endroit des partenaires de l'Union africaine. On leur a demandé d'appuyer et faciliter la participation de la plateforme de Dérénaux aux différentes rencontres internationales sur le climat. Nous avons aussi demandé aux partenaires d'appuyer techniquement et financièrement les projets et actions de la société civile, membres de la plateforme de Dérénaux dans la mise en œuvre et le suivi de la CDN de la Puissance africaine. Nous avons demandé aussi aux partenaires techniques et financiers de renforcer les capacités de la plateforme de Dérénaux dans la mobilisation des fonds climatiques. Et à nous de la société civile, nous avons demandé que nous soyons proactifs et efficace dans tous les processus liés à la gouvernance forestière et climatique dans lesquels le gouvernement africain s'est engagé.
Le ministère de l'Urbanisme installe sa première direction régionale à Boali dans l'Ombelampoko.
Cette direction va définir un nouveau plan d'aménagement de la ville et aussi aider la population à avoir des terrains de construction. Bienvenue Ngaibouna, directeur régional numéro 1 de l'Urbanisme à Boali, parle des différents services au micro de notre correspondant Robert Faradanga.
Ce que nous sommes appelés à faire, c'est d'élaborer un plan d'aménagement de la ville. Nous allons faire des lotissements selon un plan cadastral, réserver les zones qui doivent abriter les différents services déconcentrés de l'État dans la politique de la décentralisation. Donc nous devons d'abord nous installer avant de situer les autres services qui viendront après nous. Je lance un appel aux habitants de Boali de se rapprocher de nous pour différents services et conseils. Nous allons définir un nouveau plan cadastral de la ville de Boali. Des routes et ruelles seront tracées, des parcelles seront morcelées, des titres fonciers seront attribués en bonne et due forme.
Actualités africaines en bref, difficiles conditions de vie des déplacés de Goma en République démocratique du Congo.
L'offensive des rebelles du M23 a provoqué la panique dans la province du Nord Kivu. Au moins 50 000 personnes ont fui leur village depuis le 20 octobre dernier. Elles se retrouvent dans un établissement scolaire transformé en camp à Kayembe. Pour le moment, ces déplacés ont besoin d'une aide humanitaire à cause de leur situation très précaire. Selon la société civile locale, en milieu de semaine, près de 14 000 ménages, soit au moins 60 000 personnes, étaient repartis sur les 69 sites de déplacés de Kanyarunsina, localité proche de Goma.
Les autorités ougandaises continuent de renforcer le système de dépistage et de recherche des cas contacts après l'apparition de premiers cas d'Ebola à Kampala.
Ceci afin qu'aucun n'échappe à la surveillance. Elles veulent aussi s'assurer que la population respecte les conseils du gouvernement. Depuis fin octobre, la capitale ougandaise a enregistré 14 cas du virus Ebola qui a déjà fait 49 morts dans le pays selon le gouvernement. Au total, 130 cas ont été confirmés. Vendredi 4 novembre, le président ougandais Yoweri Museveni a de nouveau exclu d'imposer un confinement national comme pour le Covid-19 pour contenir la propagation du virus. Basketball, bienvenue Bello, bonjour.
Bonjour Eda, bonjour à tous.
Une première délégation de Bangui Sporting Club s'est envolée ce matin pour Abidjan.
La délégation est composée de 7 joueurs, le secrétaire général du club, 4 membres du staff technique, à savoir la directrice technique, le coach, un docteur et un chargé de matériel. Ils seront rejoints sur place à Abidjan par le contingent de la diaspora. L'objectif pour le champion de la RCA est d'arracher une place pour la 3e édition de la Basketball African League. Le tournoi est prévu à partir du 14 novembre au Palais des sports de Trècheville à Abidjan, Côte d'Ivoire. Le président du club, Cyril Damango, invite tous les centrafricains de la Côte d'Ivoire en général et particulièrement ceux d'Abidjan à venir soutenir leur équipe.
Du football, la 6e journée du championnat en première division se poursuit au stade Barthélemy Bouganda.
Actuellement, Sika Sport affronte Castel Foot, suivi du match tout puissant Uska de Bangui, Racing Club du 3e arrondissement. Hier, le Diplomate Football Club du 8e arrondissement et le Stade Centrafricain SCAF ont fait match nul un but partout.
Football encore, la rencontre de la Fédération Centrafricaine avec les présidents secrétaires généraux des Ligues de Province et de Bangui prend fin aujourd'hui.
Pendant 2 jours, ces responsables réfléchissent sur plusieurs thèmes, notamment les obligations d'octroi des licences au club CAF, la gestion de l'appui financier de la Fédération aux Ligues et Clubs. Ils ont aussi échanger sur l'organisation des compétitions des ligues et sous-ligues et aussi les difficultés qui entravent le développement du football dans leur localité. Quelques avis de certains responsables au micro de Claire Assamadinga.
Mbomo est éloigné de la capitale, donc nous avons des difficultés que nous traversons au niveau de Bangassou. Notre stade n'est pas encore structuré. La formation qu'on fasse au niveau de Bangui et au niveau des différentes ligues, ça ne se passe pas au niveau de Bangassou, donc nous avons encore beaucoup de choses. Si nous ne sommes pas formés, nous ne sommes pas instruits par rapport au football, donc on ne peut pas aller de l'avant.
La fédération nous a donné des directives avant de travailler avec sa main. Arrivé sur le terrain, les dirigeants et les clubs n'ont pas compris. Et cette fois-ci, on va expliquer toutes les difficultés que nous avons rencontrées. Surtout le problème des documents pour les clubs, enregistrement des joueurs sur les licences FIFA connaître. Et il y a des problèmes de fonctionnement. Fonctionnement et comment on doit gérer les petites subventions que la fédération nous donne. Il faut qu'il y ait une amélioration de la fédération ainsi que du côté des ligues.
Notre grand problème de la Ligue de Bamingui-Bangoran, surtout au niveau des sous-ligues, nous avons des problèmes de structuration des clubs. Donc nos clubs depuis ne sont pas structurés.
Ainsi s'achève ce journal en français préparé par toute l'équipe de la rédaction. Merci à vous de l'avoir écouté. Tout de suite la version en sango.